bande originale du lundi au vendredi sur France Inter à partir de 11h. C'est la bande originale, soyez les bienvenus avec Leïla Kadour-Boudedi.
Bonjour à tous.
Marina Rollman, Daniel Mort.
Bravo Daniel.
Tanguy Pastureau sera là tout à l'heure. Antoine Villa est déjà là. Et notre invité, monsieur Yvan Bourdion.
Bravo.
Bonjour, je veux dire capitaine, mon commandant, mon...
C'est bien, capitaine.
Capitaine, c'est pas mal. Hein. Ouais, bonjour, capitaine. merci de venir à notre micro. Vous faites partie de toute une belle opération qui s'appelle We Love Green, qui est un festival, qui est aussi bien fait pour de la musique, des rencontres, de la restauration, du bon sens. C'est pas que de l'écologie, c'est vraiment du bon sens. Et vous, en particulier, vous allez vous exprimer sur une opération qui s'appelle Nettoyer les océans. C'est possible. L'idée, paraît-il, vous est venue à force de récupérer des plastiques qui vous gênaient dans une course ou une promenade. Enfin, je sais pas. Enfin, c'était vous aviez du plastique dans le gouvernail.
Bon, en fait, déjà 25 ans de carrière de voile où je tape quand même pas mal de containers, pas mal d'abandons à cause des objets flottants, voilà, des morceaux de plastique et autres.
Globalement, dans votre carrière de skipper, dans les courses que vous avez vos solitaires,
ça représente 20% des abandons à peu près liés aux déchets qui flottent. Voilà, si tu mets un bâton en bois devant les jambes du Zane Bolt, je pense qu'il
ça s'appelle un centimètre. Mais pardon, quand vous dites du plastique, un conteneur, c'est pas un objet qui est tombé par hasard d'un bateau, un conteneur.
Si, ça tombe. En fait, il y a deux solutions. Soit ça tombe dans les tempêtes bêtement, parce que le bateau tangue trop d'un bord à l'autre.
Et genre, c'est pas attaché.
Voilà, non, c'est pas attaché. Et puis, deuxième solution, c'est jeter volontairement la mer, parce que comme ça monte très haut en étage sur les bateaux, pour tenir le bateau mieux à la mer dans les tempêtes, il les jette volontairement. Donc il y a aujourd'hui à peu près 100 000 containers qui ont été jetés à la mer.
Vous n'essayez pas de les récupérer ?
Qui autour de la table savait ça ?
Non, moi je découvre.
Ah, mais c'est et il y a encore...
Marina, le signe de la tête ne marche pas du tout à la radio.
Non, c'est peu. Oh là là, faut que je répète. J'arrête de parler en langage des signes.
Non, mais moi j'avais jamais entendu parler de containers qui étaient volontairement largués.
Tout à fait.
Par de la marine marchande.
Tout à fait. En fait, c'est parce que...
C'est pour sauver le bateau.
Voilà, c'est pour sauver le bateau. Ouais. C'est soit ils perdent de tout, ils perdent le bateau.
Jettent du lest.
Avec le tout dessus, soit ils larguent une dizaine, une centaine de containers et ça sauve le bateau.
Qui représente, c'est gros comme une voiture, c'est quoi un conteneur?
Ça fait 12 mètres de long, un conteneur.
Mais qui ne cherche pas à récupérer après.
Non, c'est ça qui est scandaleux.
C'est ça, parce que limite, on décharge genre mode montgolfière, mais après on va récupérer quand même.
Tout à fait. Un conteneur, ça coûte, je crois, autour de 15 000 euros neuf. Un GPS, ça coûte 50 euros. Donc c'est vrai qu'on pourrait mettre des GPS sur tous ces conteneurs bêtement et puis aller les récupérer. Et il y a à peu près 10 000 conteneurs aujourd'hui qui flottent sur la mer et qui sont des frigorifiques, qui sont des conteneurs remplis de frigos, donc avec beaucoup de polystyrène, et qu'on pourrait effectivement aussi récupérer.
Mais c'est dingue. Je trouve ça dingue. Bref, moi je pensais que ce que vous appeliez le plastique en mer, c'était des bouteilles, des gobelets, des sacs en plastique.
Je vous rassure, notre action avec Cycliner, c'est d'aller récupérer surtout les plastiques, aussi un petit peu des conteneurs.
Non, mais je m'attendais pas à ce qu'il y ait des conteneurs. Voilà, c'est la proportion qui me paraît totalement dingue. Qu'il y ait un manque d'éducation à laisser aller de la part de monsieur et madame tout le monde en faisant un pique-nique, en laissant un sac de plastique s'envoler, ça finit dans l'eau. La connerie quotidienne, j'entendais, mais celle qui est programmée presque par une marine marchande professionnelle, qui vit sur la mer, donc j'imagine que un marin marchand aime les océans aussi.
Tout à fait. Bon, ça reste très anecdotique et très... ça fait 100 000 containers, c'est vrai que c'est impressionnant comme chiffre, mais c'est depuis 50 ans. Voilà, faut voir ça. Après, voilà, ça se sécurise de mieux en mieux. Je ne veux pas dire que ça s'améliore pas, mais effectivement, c'est le constat qu'on peut faire aussi des 50 dernières années.
Vous vous dites, il va falloir la nettoyer, cette mer, ces océans, il faut les nettoyer. Ouais. Vous dites ça quand ? Il y a combien d'années ?
En fait, je fais en 2014, 2015, un tour du monde avec un petit voilier, un petit catamaran de sport à Radlo.
Qui vous renvoie aux images de ce que vous avez vécu avec vos parents.
Voilà, 33 ans avant, je fais le même tour du monde avec mes parents. Pas un sac plastique, pas une bouteille, rien, une mer parfaite. 33 ans après, j'y retourne, le même trajet. Et là, pendant 2 mois, je navigue le long de la barrière indonésienne, le Sri Lanka, les Maldives, en gros, l'océan Indien. Tout le long des côtes, en fait, je navigue dans les plastiques. Donc, je m'arrête tous les quarts d'heure, tous les 20 minutes pour enlever ces filets de pêcheurs, pour enlever ces déchets coincés dans les gouvernails, dans les safrans. Et ça dure tous les jours et j'en vois à perte de vue. Et c'est là qu'en rentrant en France, je me dis, mais bon Dieu, les plastiques, ce n'est pas seulement les nanoparticules des plastiques qu'il y a dans le 7e continent, c'est aussi des macro-déchets plastiques qui sont récupérables.
Alors, parlons de ce 7e continent. Il y a quelque part un continent de plastique.
Oui, alors sauf qu'il ne faut pas se tromper sur l'explication du 16e continent. Ce n'est pas ce qu'on imagine des déchets à perte de vue en surface. Ce sont des nanoparticules de plastique, voire très petites, voire presque invisibles, qui sont dans la mer et qui sont à en surface et dans les colonnes d'eau. Et si on tamisait la mer à cet endroit-là, évidemment, par mètre cube d'eau, on récupérait par exemple 100 morceaux de plastique. Mais ce n'est pas visible, donc ce n'est pas ce qu'on peut imaginer. Il y a une mauvaise communication de fait. Ah. Par contre, ça fait des dégâts, évidemment, pour la faune, pour le plancton.
Oui, parce qu'il y a des poissons, des animaux marins qui les bouffent, enfin, qui les avalent.
Absorbent. Évidemment, plus c'est petit, plus ils absorbent facilement. Ouais. Et ça fait des dégâts. Et l'idée, ce n'est pas d'aller récupérer ça, parce que ça, malheureusement, la pollution passée, elle est plus récupérable.
C'est de récupérer le plastique avant qu'il devienne sous cette forme.
Exactement, d'aller à la source, parce qu'aujourd'hui, 63% des plastiques proviennent de 10 grands cours d'eau dans le monde. Donc on imagine bien qu'en postant des bateaux et des systèmes...
À la sortie des fleuves, au delta...
Voilà, on est capable de collecter une grosse partie des plastiques à la source dans les premiers jours, les premières semaines où le plastique est jeté à la mer, et donc dans son état original de bouteille d'eau, de sac plastique. Et là, c'est récupérable.
Donc là, vous vous dites, on peut récupérer, comme mettre une espèce de filtre à la sortie de ces fleuves qui se jettent dans les océans et dans les mers. Il y a des endroits clés sur la planète, c'est la Méditerranée, c'est l'océan Indien, Pacifique. Alors,
globalement, c'est surtout l'Asie du Sud-Est, le Yangtze, le Mékong, le Gange, tous ces grands fleuves d'Inde, de Chine, d'Asie, du Sud-Est, des Philippines. Il y a le Nigeria aussi qui dégorge beaucoup, il y a l'Amazonie. Donc c'est moins dans nos régions, évidemment l'est de la Méditerranée quand même un petit peu, l'Égypte, le Liban, tout ça c'est assez pollué. Mais évidemment l'idée c'est que d'aller commencer par ces zones prioritaires où là il n'y a plus qu'à se pencher pour ramasser quoi.
Vous, donc il y a 4 ans, vous vous dites que comment faire le tri ? Plutôt que d'imaginer une espèce de barrage à la sortie des fleuves, vous imaginez un bateau ?
Alors il y a des barrages qui existent. Il y a une initiative de Boyan Slat, un jeune Hollandais qui fonctionne. Et ils sont en train de mettre au point leur barrière flottante. Le souci qu'on a sur ces grands fleuves, c'est que c'est évidemment les grands fleuves qui ont aussi énormément de trafic maritime. Évidemment, on ne peut pas bloquer le trafic maritime de ces grands fleuves. Et comme par hasard, les déchets vont plutôt là où il y a de la profondeur, là où passent les cargos. Donc il faut combiner les deux, en fait. Il faut vraiment avoir à la fois des barrières flottantes qui retiennent les déchets, et ça existe déjà, par exemple, à la sortie de la Seine. Et puis avoir des bateaux, effectivement, qui se postent pas assez bien. Et qui ont de l'autonomie, surtout. Parce que quand tu vas à la sortie des grands fleuves au Bangladesh, il n'y a pas un port à perte de vue. Donc il faut pouvoir rester plusieurs jours sur place pour collecter pendant des jours et des semaines avant de revenir dans un port de décharger les déchets.
Et qui finance ça en fait ? Parce que de même que d'un point de vue diplomatique, la zone qui entoure un pays, la zone maritime, dépend de ce pays d'un point de vue diplomatique. On n'a pas le droit d'enfreindre un certain nombre de lois et de législations. Là, est-ce que la France est responsable dans un périmètre de tant de kilomètres de la propreté ou de l'état de son océan ?
L'enjeu pour nous de Cycler, ça va être effectivement d'avoir une réflexion globale un enjeu complètement global sur la planète, puisqu'on a les zones territoriales des côtes qui vont jusqu'à 12 000, mais c'est très peu, c'est 24 kilomètres.
C'est ça. Ouais.
Et après, on est en zone internationale, donc en eau internationale, donc ça concerne tout le monde. Et là, effectivement, il faut vraiment pouvoir convaincre toutes les communautés international d'agir. Un des gros travaux de Cycleaner, ça va être évidemment pendant les 5 prochaines années d'aller se mettre en contact avec tous ces pays diplomatiquement parlant pour pouvoir à la fois avoir leur accord évidemment pour aller chercher aussi les déchets chez eux et puis aussi pouvoir les ramener à certains endroits, notamment là où il y a des unités de recyclage, parce que les unités de recyclage se développent, se profilent et se prolifèrent quand même de manière assez rapide. Et donc l'idée d'un bateau qui est complètement autonome en énergie, c'est-à-dire qui n'a pas d'empreinte carbone, c'est assez génial, parce qu'on peut, une fois qu'on a fait le plein des cales, on peut accepter de faire un ou deux jours de mer avant de ramener les déchets.
Allons au bout de l'idée.
Ouais, comment
l'idée de faire un bateau qui a quoi ? Qui a la taille d'un terrain de foot ?
Exactement, 70 mètres de long, 49 mètres de large. C'est en
un
fait,
bateau qui a la taille d'un terrain de foot.
Il y en a qui sont plus grands. Les bateaux de croisière sont beaucoup plus grands que ça.
Ouais. Oui, oui.
D'un terrain de foot ?
Bien sûr.
Ouais. Ah ouais, j'ai pas un bar immense un terrain de foot.
Non, ce qui est impressionnant, c'est que ce soit un multicoque, un bateau à voile principalement, qui soit de cette taille-là, effectivement. Là,
on va reparler de l'énergie et de la manière dont il va se déplacer ce bateau. Mais donc l'idée, c'est qu'il ait 3 ou 4 coques.
quatre coques, en quatre. Fait. Quatre coques pour avoir trois entrées d'eau maritime.
Voilà, et avoir des espèces de tapis. Enfin, j'ai vu la maquette, l'animation en 3D, c'est absolument dingue. Avoir des espèces de tapis, comme des tapis de supermarché, mais qui montent vers le haut, qui remontent, en fait, tous les déchets que vous allez choper, et après, de faire un tri. Vous dites même, d'ailleurs, si on attrape des tortues ou des animaux, ils pourront être ressortir derrière.
Ils fonctionnent un peu comme une baleine.
C'est un tri sélectif.
Ça rentre, et puis l'eau est
Pas tout à fait. C'est vraiment des tapis roulants qui font remonter les déchets plastiques dans le bateau. Mmh. Effectivement, les déchets organiques ou la petite tortue qui se fait piéger accidentellement repart à la mer naturellement, même s'il y a des ultrasons à l'avant qui vont faire fuir tous les poissons, les cétacés, etc. C'est des systèmes qui existent déjà sur plein d'autres bateaux. Et puis après, nous, on a des opérateurs à bord qui vont vraiment trier le plastique et qui vont les séparer en deux parties. Le plastique qui est recyclable et qui, lui, va être compacté pour être amené à terre. Et le plastique non recyclable...
Qui va être compressé façon César, quoi.
Le cube de plastique là qu'on peut voir sur des images à terre, la balle de 1 mètre cube, là, qui va être stockée. On pourra en stocker quand même 600 à bord, ce qui n'est pas négligeable. Et puis, il y a la moitié du plastique qui n'est pas, lui, récupérable.
Et que vous allez pyrolyser, cramer pour retrouver de l'énergie et faire avancer le bateau.
Tout à fait. C'est génial. On va fabriquer notre propre carburant pour le bateau. C'est pas suffisant pour l'énergie parce qu'il faut aussi qu'on ait
Évidemment la voile.
On a la voile pour les périodes de convoyage quand on ramène les déchets à terre. Là, on a une vitesse de croisière de 10 nœuds.
Vous avez des panneaux solaires?
On a 2000 mètres carrés de panneaux solaires, c'est gigantesque. Mm-hmm. Et puis on a surtout deux grandes éoliennes à l'arrière du bateau qui font la taille de l'Arc de Triomphe et tout ça produit 1 mégawatt d'électricité suffisamment pour l'autonomie du bateau quand on est en période de collecte.
Donc vous serez à 75-80% de d'énergie verte.
C'est l'objectif minima qu'on s'était fixé chez SeaCleaner. Mais là, dans les études de faisabilité, on tend vers les 100%.
Super.
Donc ça, c'est plutôt satisfaisant. Après, c'est évidemment la réalité du bateau sur l'eau qui montrera à quel pourcentage on est exactement.
Combien de personnes travailleront sur ce bateau?
Il l'a dit, 2.
c'est ça le grand changement. Moi qui ai l'habitude d'être tout seul sur les bateaux, là il va falloir avoir 12 membres d'équipage, 12 opérateurs pour gérer le plastique et 3 scientifiques et 9 invités. Ça fait 36 personnes.
9 invités, ça veut dire quoi?
Non, c'est les invités effectivement un peu prestige, c'est les mécènes qui nous ont soutenus, c'est des journalistes, c'est tous ces gens-là qui peuvent nous accompagner et faire vivre l'aventure.
Alors vous parlez de mécénat parce qu'il y a eu déjà une levée de fonds avec KissKissBankBank pour démarrer l'opération. Là, il y a combien, c'est pas l'argent qui m'intéresse, c'est le nombre de personnes. Soit 1 euro ou 2 euros, combien de personnes ce sont
Aujourd'hui, on est à 7500 donateurs qui donnent entre 5 et 100 000 euros. Et puis on est à 30 mécènes, et ce chiffre augmente quasiment tous les jours. Donc c'est un gros succès, parce qu'on n'a pas fait de prospection pour ce projet-là, on a juste attendu que l'argent arrive. Et là, on va passer à l'étape 2, où on a une équipe commerciale, effectivement, qui va aller démarcher les partenaires, parce que ce bateau...
Parce qu'il faut 25 millions, c'est ça?
Il faut 25 millions, et on en a trouvé déjà 8, ce qui est assez remarquable en moins d'un an. Et on a encore 3 ans pour boucler notre budget.
Et est-ce que les États vous soutiennent? Tout à l'heure, vous expliquiez qu'il fallait aller expliquer la démarche. Ouais. J'imagine qu'il y a certains pays qui n'ont rien à faire.
Ah, complètement. Il faut vraiment voir le projet SeaCleaner comme bien au-delà d'un simple collecteur. On va vraiment profiter de ce bateau, de collecter les déchets, pour aller se déplacer, pour aller dans des pays où on va pouvoir sensibiliser, éduquer. Mm-hmm. L'intérêt, c'est que tu te retrousses les manches. Tu es dans l'action, tu es dans le concret. Tu vas vraiment ramasser les déchets plastiques devant les plages des gens qui ont des lieux pollués. Et quand tu reviens à terre, à un moment donné, tu deviens crédible parce que déjà, tu arrives avec un bateau spectaculaire qui a une vraie action. Là, tu peux convoquer les politiques, les scientifiques, les décideurs, les
aller parler dans les écoles aussi.
Et dans les écoles, etc. Mais sur place, parce que l'éducation en France, elle est bonne. Mais quand tu vas en Indonésie, au Sri Lanka, ils savent même pas que de jeter un plastique à la mer, c'est mal. Donc c'est là où le projet SeaCleaner et le bateau va pouvoir vraiment agir sur le terrain, dans ces lieux qui ont besoin de tout ça.
Il faut 25 millions pour un bateau. Il faudrait combien de bateaux pour nettoyer les océans?
Si on parle budgétairement, c'est 1 million de dollars par an par bateau pour l'amortir, 1 million pour le faire fonctionner. Ça fait 2 millions par bateau par an. Sur 100 bateaux, à peu près,
qu'on a identifié,
voilà. Pour être bien placé stratégiquement sur les fleuves, ça fait 200 millions de dollars par an à l'échelle de la planète. Ça semble pas totalement infinançable pour la planète.
En tout cas, bravo, parce que moi, l'idée même de dire on va mettre un bateau avec des tapis roulants pour ramasser les plastiques, elle est formidable. L'idée de faire le tri entre les plastiques qui peuvent être compressés en balles et ceux qui serviraient à l'énergie même du bateau. Combien de techniciens, combien d'inventeurs travaillent sur le projet du Skinner?
Bah aujourd'hui, c'est 7 bureaux d'études, 25 personnes dans le consortium technique qui travaillent depuis un an et demi. Et puis,
mais il faut les payer déjà, ces gens-là.
Ouais, on a quand même déjà un fonctionnement. On a déjà, je veux dire, on a trouvé 8 millions d'euros.
C'est qui on à part vous?
Ah bah, toute une équipe autour de moi. J'ai une équipe formidable. Je ne peux pas tous les citer. On est 37 aujourd'hui, mais
C'est vous qui avez catalysé les énergies de tout le monde.
Tout à fait, on était deux au début, et puis voilà, l'équipe s'est créée très vite et ça va très vite. Voilà, on est déjà présent en Suisse, en Belgique. On se développe voilà bien, et il y a plus de temps à perdre parce qu'en fait.
Vous êtes toujours suisse d'ailleurs, ou ça a changé avec vos voyages et.
Je suis franco-suisse. Alors je suis toujours suisse pour les Français et français pour les Suisses. C'est toujours problématique, mais.
Du moment que vous restez suisse pour le fisc.
C'est le principal.
C'est le principal. Et parmi ceux qui polluent de façon notoire, c'est-à-dire les transporteurs, tout ça, il y en a qui sont mécènes.
Mécènes, oui. Y a des, alors, pas encore.
Ah, qui se rachètent, tu veux dire une morale.
Vous pensez à CMA, CGM, des gens comme ça?
Oui, les gros transporteurs. Ouais.
On est en contact avec eux. Pour l'instant, voilà. Mais ils font des gros efforts. Faut pas penser qu'ils sont que là pour polluer la planète. Faut pas oublier que le transport maritime, ça reste le transport le plus écologique au kilomètre parcouru et à la tonne embarquée. Donc voilà, mais c'est vrai qu'ils ont des efforts à faire, notamment pour les carburants. Il y a des grosses études qui sont lancées pour qu'ils puissent optimiser leur carburant, qu'ils arrêtent de consommer leur goudron, là, leur mazout très, très, très polluant.
Yvon Beaugnon est avec nous jusqu'à la fin de cette émission. On va reparler du festival Wheel of Green où vous allez, c'est samedi après-midi, c'est ça, donner une conférence?
Tout à fait. Ouais,
c'est un cours magistral ou ce sont des entretiens avec des interventions où les gens pourront vous poser des questions?
Non, ce qui est formidable avec Wheel of Green, c'est qu'on est dans le cadre d'un festival avec 50 000 personnes qui vont être présentes dans le week-end.
Au moins, oui.
Et un accès au public. Parce qu'en fait, le problème de l'écologie, c'est que c'est tout le temps des forums qui sont privés, qui sont entre nous et 100 personnes. Ouais. Et voilà, ça concerne souvent les gens de l'écologie, mais c'est pas un accès au grand public. Là, enfin, avec Wheel of Green, on peut vraiment communiquer avec le grand public au plus large.
Et il y a beaucoup de concerts également organisés. Il y aura notamment Björk.
Ouais. Stay clean.
Beck sera également présent. Il y a 3 scènes différentes réparties. C'est au Bois de Vincennes que ça se passe ce week-end. Wheel of Green, Charles Gainsbourg y sera également. Hectares au cœur du bois de Vincennes pour accueillir 70 000 festivaliers. J'imagine qu'ils ont évidemment déjà anticipé la manière de ne pas salir ce bois de Vincennes par ce festival et d'être respectueux de l'endroit où les scènes sont montées, où les festivaliers vont se balader.
Ah non, c'est pensé. Ils ont tout imaginé et je crois qu'on sera du zéro ouest, hein, comme on dit, et il n'y a pas de déchets. Et tout est bien organisé et géré de ce côté-là.
Ouais. Mais faites attention parce que les musiciens sont des gens sales en général. On le sait ici, vous verriez les loges.
Au moins, ils n'utilisent pas d'eau pour saver, ça fait des économies.
Ah ouais, bravo les clichés.
Tom Villa, ouais. Vous avez compris pourquoi Yvon Beaugnon était notre invité.
Bah, on l'a dit pendant 10 minutes, un quart d'heure, pour le nettoyage des océans. Et là, on va en parler tout de suite pour le Wheel of Green. C'est le festival écolo à pas louper. Et je ne dis pas ça parce que France Inter est partenaire, même si France Inter est partenaire. Mais sachez que vous pouvez réserver dans tous vos points de vente habituels. Demain, c'est complet. Le dimanche, dépêchez-vous. Tarif normal 55 euros, gratuit pour les moins de 5 ans, 16 euros pour les 5-12 ans et 25 euros pour les 12-16 ans. D'ailleurs, bravo Wheel of Green, parce que France Inter est partenaire. À côté, nos copains partenaires, c'est Tabasco. Oui, le Tabasco. Tinder et Le Bon Coin. Donc si vous aimez le service public, bouffer épicé, le cul et acheter des trucs en mauvais état mais pas cher, nous sommes partenaires de tout ça. On dirait un camoulox, c'est extraordinaire. Non, je trouve ça chouette en tout cas de lier un festival de musique avec l'écologie. De toute façon, les gens, comme on vient de le dire, qui aiment aller dans les festivals sont de grands écolos. Une douche tous les 3 jours, on gaspille pas d'eau, on boit de la bière, on s'emmerde pas avec les toilettes, on dit que ça fait de l'engrais. Donc voilà, il y a plein de gens qui disent, moi j'adorerais faire Koh-Lanta, il y a pas 100 000 euros à gagner, mais va faire un festival, c'est extraordinaire. Tous les festivals ont des points communs. Par exemple, la queue pour aller aux toilettes. Moi, j'adore savoir qu'il y a 30 personnes qui me détestent pendant que je fais pipi, par exemple. 30 chez les mecs et 140 chez les filles.
Ouais, c'est plus lent. Ouais.
Dites-vous que si vous avez une envie pressante et que devant vous, il y a des filles en combi, c'est juste pour vous ralentir. Voilà. Non, mais les toilettes dans les festivals, c'est rééducation du périnée, c'est obligé. Alors, festival, faut être motivé quand même, parce que là, bon, la bouffe, je sais qu'à Wheel of Green, j'ai regardé, ça va être formidable, vraiment. Il y a des produits qui ont été sélectionnés, mais dans les autres festivals,
c'est... Il y a plein de restaurateurs, ils font
des... Ouais, c'est vachement bien, les dernières, déjà, c'était top.
Mais c'est pour ça, aller à Wheel of Green, parce que dans les autres,
ouais. Bon.
La merguez à 14 euros, elle a jamais pris un cours aussi fort. C'est-à-dire, tu payes un truc cher, un truc moyen, et t'es content en plus. On embrasse tous les abonnés de Canal+. Mais,
qui aime le foot.
Je critique,
enfin, qui aime.
Et, non, mais je critique les festivals, mais c'est vrai que c'est formidable, et je vous félicite, Yvan Bourion, et surtout, je vous encourage parce que vous allez faire une intervention pendant le festival. Ce que je précise, pas sur la scène, hein, pas sur la scène centrale entre deux concerts, parce que là, parler nettoyage des océans à des gens bourrés en début d'insolation, c'est quand même un coup à se prendre une tongue dans la gueule. Non, non, il y aura des conférences sur l'écologie tout au long du week-end, car n'oublions pas, comme nous le rappelle souvent Nagui, qui aime citer Saint-Exupéry, que nous n'héritons pas de la terre de nos parents, nous l'empruntons à nos enfants.
Ouais.
Voilà. Il a dit aussi, Saint-Exupéry, fait chier, j'ai oublié mon parachute, mais bon, ça c'était plus tard.
Non, mais c'est sa dernière phrase, surtout.
C'est sa dernière phrase. Yvan Bourion, en tout cas, bravo, là, vous avez réussi à concilier musique et démarche environnementale dans ce festival. Moi, je trouve ça formidable, les gens qui arrivent à concilier leurs deux passions. Daniel, il y arrive très bien. Il aime sans la radio problème. Et ne pas voir grandir ses gosses. Et ça, bravo Daniel, pour le moment, tu tiens le cap. Moi, je veux bien essayer de concilier mes deux passions, mais c'est la radio et le mime. Et a priori, ça va être compliqué. Bonne émission.
Merci, Tomila.
La bande originale, sur France Inter.
J'ai oublié de citer aussi Orelsan, qui fera partie des artistes présents.
Basique. Basique. Ok, les gens les plus intelligents sont pas toujours ceux qui parlent le mieux. Simple, les hommes politiques doivent mentir.
C'est également Jamie XX. Formation très éclectique, et ce qui est bien, c'est de faire de l'écologie une fête et pas ce qu'on reproche souvent, et je peux le comprendre, notamment quand les médias parlent des problèmes écologiques, on dit ouais, arrêtez, donneur de leçons, bobo parisien, c'est facile, vous êtes dans votre studio climatisé en train de dire ne faites pas ci, ne faites pas ça. C'est vrai que donner un discours festif à l'écologie, sympa, avec autant de chefs cuisiniers qui viennent proposer du bon, de l'équitable, et du
pollution sonore.
Non,
c'est
ça pilule.
Non, c'est le réveil.
Non, non, mais c'est malin. Est-ce que vous attendez quoi de votre présence à Wheel of Green, au-delà de la fête, du partage, 70 000 festivaliers attendus sur les deux jours? Vous attendez de convaincre des gens justement d'aller sur Kiss Kiss Bang Bang, si ça existe encore d'ailleurs, de pouvoir donner, participer au financement de ces cleaners? Vous attendez quoi d'eux?
Le plus gros succès qu'on peut avoir, c'est de parler le plus possible de
gens. Vous le faites ici maintenant déjà.
Voilà, déjà.
Là, déjà, vous touchez 1 800 000 personnes, ça sera plus qu'au festival, mais bon, blague à part.
Et c'est de montrer simplement qu'on
vous attendez quoi d'eux, même des auditeurs là maintenant d'Inter, vous attendez quoi?
Qui se sentent eux-mêmes des porte-parole, qui se sentent eux-mêmes concernés, qui non seulement agissent eux à améliorer un petit peu leur quotidien, on est tous des pollueurs, on peut tous se passer d'une bouteille d'eau, on peut tous se passer des sacs plastiques.
Il faut dire qu'on n'est pas des donneurs de leçons au sens où nous aussi, autour de cette table, on pollue à notre manière, mais il faut juste être conscient des gestes qui empêchent.
On éliminerait les bouteilles d'eau et les sacs plastiques de la terre, on économiserait 40% de la pollution maritime. Vous imaginez? Donc il y a pas grand chose.
Il y a un pays en Afrique, je crois que c'est le Rwanda, qui fouille les passagers à l'arrivée des avions pour retirer les sacs en plastique. Le sac en plastique est interdit.
Complètement.
Bah, Jean-Baptiste, tu peux vérifier. Je sais plus. Je crois que c'est le Rwanda qui, au même titre, fouille pour voir s'il y a de la drogue, des armes à l'entrée d'un pays, empêche les entrées de sac en plastique.
Au Maroc, aujourd'hui, c'est complètement interdit de fabriquer et de vendre un sac plastique.
Et pourquoi on commercialise encore de l'eau en bouteille alors? Et pourquoi on rétablit pas les consignes?
Comme nous autour de cette table.
On rétablit pas les consignes en verre. Enfin, je sais pas. Moi, quand j'étais gamine, on ramenait les bouteilles en verre.
C'est génial.
On les remplissait. On les revendait.
Et les enfants gardaient. C'est l'argent de la consigne.
C'est ça, c'est comme les boîtes à œufs ou les choses qu'on reprenait de chez soi pour aller faire ses courses et on gardait.
Mais c'est pour ça que c'est à nous tous, chacun d'entre nous, de refuser ces bouteilles d'eau. Donc il faut refuser d'aller les acheter, il faut refuser de les consommer. Et donc forcément, le constructeur, il va être obligé de s'adapter à cette nouvelle façon.
Confirmation, c'est bien le Rwanda depuis 2008. Ça fait 10 ans qu'ils interdisent l'entrée du moins d'un sac en plastique sur leur terrain et le Kenya a suivi.
Ça n'empêche pas de tuer des gens, mais au moins ils interdisent le plastique.
Voilà, voilà, exactement.
Ça va faire une bonne question à tout le monde de prendre sa place.
Que deviennent ces grosses boules de plastique que vous générez
Ces balles de plastique. 1 mètre cube, ouais.
Deux solutions. Principalement, on va essayer de revenir dans des lieux qui sont équipés d'unités de recyclage.
Ouais.
Il y en aura par exemple en Chine 100 fois plus dans les 10 prochaines années. Donc ça va se développer, même s'il n'y en a pas encore assez dans le monde, il faut le reconnaître. Et deuxième solution, on revient dans des lieux où non équipés, par exemple on revient à Bali, et là on leur dit, bah, oui, vous n'avez pas d'unité de recyclage de plastique, on vous ramène quand même les plastiques, mais surtout on a 30 containers à bord du bateau, des pyrolyses en fait en miniature, et on leur met à disposition gracieusement ces pyrolyses pour que eux-mêmes puissent...
Des fours,
puissent,
pour être clair, ce sont des fours pour faire fondre le plastique et créer une énergie.
Voilà, et créer du gasoil, en fait, et tout ça sans dégager de CO2, c'est assez magique la pyrolyse, et donc on leur met à disposition à ces villages des pyrolyses en leur disant, maintenant, au lieu de jeter votre gobelet, voilà, vous l'amenez à la pyrolyse, et vous, au lieu d'aller faire votre plein d'essence à la station-service, vous allez faire votre plein d'essence à la pyrolyse, et ça va rien vous coûter. Donc on explique qu'il y a une valeur ajoutée à ce plastique, ouais. Il y a un cercle vertueux qui peut se faire, et voilà, on va leur mettre...
Et ces billes plastiques-là, ils peuvent les cramer avec cette pyrolyse-là?
Tout à fait.
D'accord. Voilà,
on essaie du mieux qu'on peut de les recycler d'abord,
ouais.
Parce qu'il se trouve que les plastiques qui proviennent des océans, si on les prend assez tôt... Comme ils ne sont pas chargés de métaux, de caoutchouc, d'autres choses, ils sont facilement recyclables.
Et donc ça, vous les vendez, comme ça vous récupérez de l'argent pour continuer à ramasser les déchets.
Il ne faut pas attendre une ressource financière monstrueuse de la vente. Mais évidemment, si on peut le recycler, c'est mieux. Sachant qu'un plastique, il ne faut pas oublier qu'il est recyclable seulement 2, 3, 4, 5 fois, rarement plus.
D'accord.
Voilà, donc,
La conférence, vous l'avez appelée « Nettoyer les océans, c'est possible » parce que vous entendiez souvent des gens vous dire que c'était impossible.
Oui, c'est clair qu'il y a des gens qui vont penser que c'est une goutte d'eau dans l'océan. Donc on n'est pas là pour dire qu'on va être capable de ramasser tous les déchets plastiques. On est là pour dire qu'il faut être excellent dans tous les domaines, dans la sensibilisation, dans l'éducation, dans la gestion des déchets, dans le recyclage et aussi dans le curatif. Voilà, et c'est le jour où on arrivera, heureusement, je l'espère, parce qu'on a bon espoir, parce que ce qu'on retrouve dans la mer, en fait, c'est essentiellement des produits de consommation courante, des ménages, hein, les bouteilles d'eau, les sacs plastiques, toutes ces choses-là. Et on sait aujourd'hui pertinemment qu'il y a des alternatives à ça, qu'on peut s'en passer. Donc on peut vraiment...
on pointe souvent du doigt les industriels qui ne respectent pas la planète, ou justement la marine marchande dont vous parliez tout à l'heure, mais c'est un geste individuel. Qui malheureusement,
c'est malheureusement les déchets de chacun d'entre nous, chaque particulier qui se retrouve dans la mer.
Finalement, d'où le problème d'éducation.
Voilà, on critique les plastiques sur les voitures, mais avec Kyoto, les voitures se recyclent très très bien et on voit très peu de morceaux de plastique de voiture dans la mer. Donc j'ai vraiment espoir sur le fait que dans 10 ans ou dans 20 ans, on a quand même beaucoup moins de plastique.
Mais avec le plastique et aussi inciter les gens à utiliser autre chose que de l'essence pour alimenter leur voiture, enfin leur véhicule, vous attaquez indirectement aux pétroliers.
Oui, après, faut pas s'attendre à des quantités monstrueuses de pyrolyse et de...
Non, mais de dire faut arrêter les bouteilles plastiques,
par rapport au plastique.
Ouais,
par rapport au plastique. Ça, c'est bien l'enjeu.
Ouais.
Des 50 prochaines années, c'est de réussir à faire un lobbying pour face à ces gens-là qui
sont quand même puissants,
qui ont des lobbyings très puissants.
Très puissants.
Exactement. Très puissants. Mmh. Il paraît qu'on va continuer le glyphosate, par exemple. Il y a des lobbies très puissants. Ça vous a énervé, ça?
Oui, c'est clair. Non, je suis contrarié, mais bon, voilà, on va se battre.
Il faut rien lâcher.
Mais moi, ça m'a énervé, c'est pour te dire que la planète entière.
Leïla, vous aurions sifflé quand on vous a dit qu'Yvan Bourgnon venait pour la première fois dans cette émission.
Oui, quand je pense à vous, Yvan, je pense notamment à un de vos exploits qui vous a occupé du 5 octobre 2013 au 23 juin 2015.
Yvan Bourgnon s'est lancé l'impensable défi de faire le tour du monde avec comme seul guide le soleil et les étoiles. Sur un catamaran non habitable, son périple prend le goût d'un retour aux sources, où il retrouve son frère de l'autre côté du monde. Une aventure extrême à travers l'Atlantique, le Pacifique et l'océan Indien. Ne manquez pas l'incroyable épopée d'un enfant de la mer.
Voilà la bande-annonce du Monde d'Yvan, une série documentaire en 4 épisodes sur votre tour du monde, comme nous l'avons entendu, un tour du monde en catamaran sans habitacle et sans GPS. Il n'y avait pas plus compliqué, Yvan, pour...
Pas de voile.
Non, mais
pas de coque.
Pas de nourriture, pas de... C'est complètement fou.
Ouais, mais si tu veux revivre au plus près de la nature, il n'y a pas trop le choix. Et c'est ça qui s'est passé, c'est que j'ai eu à la fois cette chance de vivre toute l'avancée technologique, parce qu'il y a 30 ans, il n'y avait pas tout ça. Quand j'ai fait le tour du monde avec mes parents, il y a 30 ans, il n'y avait rien. Et puis, j'ai découvert toute la technologie, la météo, l'informatique à tout va, les GPS et tout ça. Et puis, à un moment donné, je me suis dit, mais finalement, est-ce que je sais renaviguer de manière assez pure? Est-ce que je sais revenir aux fondamentaux de la voile? Voilà, la voile intuitive et tout. Et du coup, c'est vrai que j'ai fait un choix assez radical en me dépouillant complètement de toute technologie, en disant, je pars avec deux coques, un mât, une voile, plus de GPS, plus de météo, plus rien. Voilà, je prends la mer.
Pas de radio, pas de contact avec la sécurité?
Alors, un téléphone par satellite pour la sécurité, mais en tout cas, je recevais aucune information de l'extérieur.
D'accord.
Donc, je suis parti sur 230 jours de mer, comme ça, à Raldo, avec un bateau qui fait la taille du plateau, ici, 6 mètres de long.
Il y a un moment où vous avez eu peur?
Oh, oui, c'est sûr qu'il y en a eu plusieurs moments.
À quel moment on a peur? À quel moment on se dit, j'aurais peut-être pas dû faire ça comme ça?
En fait, le problème, c'est qu'il y a quand même 80% de bonheur, de moments magiques.
Mais...
Et donc, ces moments, même quand tu t'échoues, comme ça continue l'aventure, t'arrives vite à oublier tes mauvais moments. Voilà, moi je dis, il faut toujours la bonne proportion entre les galères et puis les moments de bonheur.
Tout à l'heure, vous parliez des conteneurs. Est-ce que les conteneurs étaient un danger pour vous?
Moins sur ce type de bateau, parce que j'allais plus doucement. Donc oui, j'ai percuté plein de choses, mais ça n'a pas été sans... Ça n'a pas été dramatique, parce que quand je naviguais sur des grands multicoques qui allaient à 30 nœuds ou 40 nœuds, évidemment, quand tu tapes un conteneur, c'est à la Transat Jacques Vabre 2015, au bout de 3 jours, on a découpé notre flotteur en deux en tapant un conteneur. Là, il n'y a pas de photo. Aussi. À ces vitesses-là, forcément, la sanction, elle est radicale. Là, effectivement, j'étais plus agacé par ces déchets que je tapais, que je rencontrais en permanence. C'était l'énervement.
Et les dangers de la mer, c'est-à-dire les vagues, les tempêtes,
les sirènes,
on dit toujours que la mer sera toujours plus forte que ceux qui l'affrontent.
C'est clair. Bon, là, la difficulté, c'est vraiment de se retrouver sur ce tout petit bateau qui peut chavirer à chaque instant, en fait, et qui est instable, et en n'ayant pas de cabine, donc t'es tout le temps sous les intempéries, tu dors sous les vagues, tu dors avec un bateau qui se couche dans tous les sens, tu peux pas te mettre au chaud et au sec dès qu'il y a des grains. Donc c'est ça qui était difficile, c'est cette pression permanente en fait où tu es en équilibre instable sur ton bateau et tu dois gérer tes voiles de manière permanente. Et même quand tu dors, tu as l'écoute à la main et là tu peux pas te relâcher, tu peux pas te déconcentrer. Et donc il faut réussir à gérer la fatigue, tout ça sur des semaines et des mois.
Il y a beaucoup de skippers qui sont capables, vous pensez, de naviguer comme ça sans GPS. Vous avez dû vous préparer avant de vous lancer dans cette course, réapprendre à lire les étoiles, j'imagine. On part avec quel bagage?
Ah bah avec le bagage que j'ai depuis 30 ans, effectivement, c'est...
Vous l'aviez pas oublié entre-temps avec toute cette technologie?
Si, il a fallu que je reprenne des cours d'astronomie, que je repratique un peu le sextant, que... Si, il a fallu se remettre dedans, parce que tu t'oublies, hein, mais ça revient. Et puis j'ai appris au fur et à mesure, c'est ça qui est fabuleux, c'est que le soir, quand il y a le coucher du soleil, tout d'un coup, il y a ce spectacle qui arrive, et en fait, les étoiles, ça évolue, on le sait, en fonction du jour de l'année, et puis en fonction de la latitude, parce que j'étais un coup dans l'hémisphère nord, un coup dans l'hémisphère sud. Et donc, je découvrais des nouvelles étoiles chaque jour. Et donc, moi, je m'émerveillais devant ça. Et j'étais avec mes cartes et tout. Puis tous les jours, j'en apprenais un peu plus parce qu'il y en a tellement. Et voilà, je me suis éclaté avec ça. Et c'était plus une passion, en fait, qu'une vraie difficulté. Quoi.
Et est-ce qu'il y a trop de technologie, d'après vous, dans les courses aujourd'hui? Est-ce qu'on ne pourrait pas un peu diminuer? On a la sensation que c'est quand même... C'est devenu un sport hyper technique, hyper équipé.
Je pense qu'il y a la place pour tout. Il y a des courses comme la Mini Transat qui sont assez encore puristes. Tu traverses l'Atlantique, c'est une coque, un bateau, un solitaire et c'est assez simple. Et ça a la place pour ça. Il y a la Golden Globe qui part au mois de juin aussi de cette manière-là avec un retour aux sources. Et puis il y a des courses pour la haute technologie et tout. Ce qui me gêne plus, c'est les barrières de sécurité qu'ils mettent de partout. On est en France, effectivement, avec un monde, voilà, on le sait, dès que quelqu'un organise une compétition avec des dangers, tout de suite il est pénalisé au tribunal. Et donc là, par exemple, sur le Vendée Globe, qui est quand même la course ultime, ils ont mis des barrières où les gens ne peuvent plus aller dans le Grand Sud naviguer au milieu des glaçons. Et il me semble que quand même, c'est nous, les skippers, d'apprécier si on est capable d'aller naviguer dans les glaçons ou pas, et d'apprécier la distance de sécurité qu'on doit avoir. Et maintenant, ça y est, tout est bordé, il y a des portes, et en fait, tous les bateaux se suivent les uns derrière les autres.
Ça perd de son intérêt.
ça perd de l'aventure, du côté aventure, puis ça perd même de la stratégie, parce qu'en fait, comme ils ont tous une route obligatoire, en fait, c'est le bateau le plus vite, finalement, qui va remporter la course, et mais, ça, c'est un peu dommage.
Mais ils font ça pourquoi? Pour se couvrir s'il y a un souci, ou aussi parce que j'imagine que ça coûte peut-être cher d'aller vous récupérer dans des zones compliquées comme ça?
C'est clairement à cause des coûts des secours, ouais. Et puis voilà, du risque pénal, parce qu'on a des lois en France qui condamnent les organisateurs de courses assez rapidement.
Il y a un lobby des assureurs?
Il y a pas ta journée lobby, toi.
Vraiment sur ce genre de bateau, donc
complot.
Vous n'avez pas une petite vignette verte devant le bateau, non, pour voir si non, vous êtes toujours assuré.
Et d'ailleurs, qui paye pour aller chercher les skippers?
C'est des accords internationaux, et en fait, ça, effectivement, c'est un peu toute la communauté internationale. Ouais. Mais effectivement, l'Australie, qui est quand même mal positionnée par rapport à tous ces blessés du large, ça finit par leur coûter cher, c'est clair.
Et ça pourrait pas être pareil pour financer les bateaux qui nettoient? Parce que pour le coup, si on peut se cotiser pour aller sauver un skipper qui est perdu dans un endroit ou en difficulté, pourquoi on ne pourrait pas financer aussi des opérations
comme
les vôtres?
Parce qu'un skipper n'est pas un déchet, madame.
Non, mais sauf que, pour le coup, là, ça concerne un peu plus de monde, j'ai la sensation.
Ah bah c'est clair, hein, un secours, c'est vite 1 million d'euros, hein,
bah ouais.
Un secours organisé.
Vous en avez besoin de combien, vous disiez tout à l'heure?
25,
et bah alors, voilà.
Pour 30 ans d'utilisation du bateau.
Et bien bah alors, qu'est-ce qu'on attend?
Non, mais voilà, on va trouver, vous inquiétez pas.
Prenez 25 skippers, balancez-les à l'eau et récupérez l'argent. Yvan Bourgnon est notre invité jusqu'à 12h30 et je rappelle que le festival Wheel of Green se passe à Paris, au Bois de Vincennes. 70 000 festivaliers sont attendus demain et dimanche avec des artistes. Je crois qu'il y a une cinquantaine de chefs, de restaurateurs aussi qui font des stands pour goûter toutes les nourritures possibles et imaginables. Et puis des conférences qui vont vous éclairez, mais avec le sourire et le sens du partage, entre autres, d'Yvan Bourgnon, et je vous donnerai les noms des autres conférenciers. Voici Marina Rollman.
Bonjour les amis. Alors le week-end passé, j'étais à Bordeaux, ville sublime, peuplée de gens merveilleux, souriants, bons vivants et d'Alain Juppé. Et j'ai beaucoup aimé. Mais évidemment, j'ai été confrontée à la dureté d'un conflit culturel qui dure maintenant depuis des décennies. Questions épineuses, difficiles à aborder sans tomber dans le manichéisme, les raccourcis faciles alors que le propos est complexe, géopolitique, sociétal, ethnographique, les ramifications sont immenses et bien loin des enjeux populistes qu'on veut lui faire revêtir. Je parle évidemment de la question de doit-on, oui ou non, dire chocolatine.
Oui.
Alors, contrairement...
Non, chocolatine. Non, pas chocolat.
Chocolatine.
Ça va.
Les députés ont tranché, ils viennent de rejeter l'amendement chocolatine à l'Assemblée et je vois au passage que je ne suis pas la seule à être débordée, mais moi, je ne me prononcerai pas. Non, je ne me prononcerai pas car cette aventure en terre girondine... Oui, évidemment, et puis surtout cette aventure en terre girondine, ça m'a fait me poser la question plus générale du nom de ce qu'on mange et où on le mange. Et si on se balade en ville et qu'on ouvre un peu les yeux, on se rend compte mais qu'on dit mais n'importe quoi, mon Dieu, mais c'est devenu un truc de fou. Depuis que je fais gaffe, je vois que des enseignes de restauration qui annoncent des trucs d'une imbécilité mais insondable. Cave à manger, empanaderia, micro-brasserie, bar à pop-corn, atelier de salade, artisan du hamburger, risottier équitable, taverne tatakiste. Mais qu'est-ce que c'est? Depuis quand ça suffit plus d'aller au restaurant? Depuis quand faut un artisan beurrier qui te fait une mouillette dans un bar à œufs? Depuis quand on doit cacher le vide avec des concepts? Quel concept? Pourquoi concept? Le concept, c'est manger. Manger, c'est comme le sexe et le rire, c'est les rares choses pour lesquelles il n'y a pas besoin de concept. Si c'est bon, on fait, il n'y a pas nécessité de discourir autour. Mais alors pourquoi? La question c'est pourquoi? Quand est-ce qu'on est passé d'un monde simple, tranché et un petit peu raciste où il y avait juste des brasseries, des pizzerias et des restaurants asiatiques à aujourd'hui cette espèce de liste infinie comme ça de grands soufflets autour du vide, bistronomie néo-française, lounge bar à grignotage et ta mère la planchette de charcuterie? Eh bien écoutez, ça s'est fait en plusieurs phases. Alors déjà, les cartes sont devenues inversement proportionnelles à la taille des plats. On a commencé à lire des trucs longs comme le bras, farandole de légumes oubliés sur sa bisque d'oseille et son espuma acidulé. Eh mais déjà, de où tu espumes gros? C'est toi qui vas te faire espumer, ok? Moi, personne, il m'espume. Et ensuite, légumes oubliés, mais oubliés genre longtemps. Genre dans ton casier au foot ou au soleil dans la voiture. Et moi, je paye pas 14 euros pour ça. Tu me donnes des légumes auxquels tout le monde, il a bien pensé, d'accord? Des légumes genre leurs petits-enfants, ils les appellent pour leur anniversaire et tout. Si je voulais des légumes oubliés, mais écoutez, mais je reste chez moi, je fais un petit peu d'archéologie dans mon frigo, je te retrouve un brocoli de la dernière Coupe du Monde, tout jaune et doux. Ça, c'est garanti, 100% légumes oubliés. Alors évidemment, le nœud symbolique de tout ça, c'est quand il y a eu renversement de la hiérarchie mangeur-manger. C'est quand on a commencé à lire des trucs genre flan de poireau au de beurre et sa marjolaine confite. sa Marjolaine Confite. Elle est clairement à lui. Donc on est d'accord pour vivre dans un monde où moi j'ai pas de bagnole, j'ai même pas un vélo à mon nom, et le flan, il a sa propre Marjolaine. Il est propriétaire, il spécule, s'il veut, il revend sa Marjolaine, il investit, il la cote en bourse et tout. Et moi je crois que quand on a accepté que les flans ont gagné l'accès à la propriété, on aurait dû se dire qu'on était allé trop loin, tu vois. Et puis après, par-dessus tout ça, on a eu la terrible révolution des tapas. Alors oui, c'est encore la faute des Espagnols qui, non contents d'avoir engendré le franquisme et la sketchup, en ont rajouté une couche avec les tapas. Alors en vrai, les tapas, c'est... Ah mon Dieu, Leïla est touchée au cœur, la sketchup. Tu l'as fait, la danse, c'est ça? Ah mon Dieu. Alors en vrai, eh bien, écoutez, les tapas, moi je trouve, en réalité, c'est très bien, mais il fallait juste pas les importer chez nous, parce que maintenant, n'importe quelle demeurée, ils se sentent le droit de te faire payer 37 euros pour trois sous-tasses remplies de pâte à caisse fusion, là, rouget, barbapapa, burrata mangue et encore nez au sable. Et nous, on est là, oui, non, mais 37 euros, ça me paraît raisonnable. Parce qu'évidemment, on est ivre, parce qu'on se bouffe les doigts en deux gorgées, donc on est là à 13 grammes. Mais donc, au fond, moi, peu importe si c'est bon et qu'on est heureux, et peu importe aussi si on dit pain au chocolat ou chocolatine, tant que c'est servi dans une boulangerie et pas dans un artisan gluténier ou quelque chose comme ça.
Ça va, merci. Qui a mis pause?
Je voulais faire régler les lames. Merci.
Moi, je mangerais bien une chocolatine.
C'est vrai.
Ouais. Dans la bande originale, dans quelques instants, nous allons parler du sponsoring aussi, qui est un élément clé, puisque Loïc Ivikel, président cofondateur de la plateforme de sponsoring sportif Sponsorize Me, va venir nous expliquer cette importance. Vous avez eu affaire toute votre vie, j'imagine, au sponsor ou à la quête de sponsor.
Ça a été un combat permanent, c'est effectivement, vrai. De chercher des sponsors pendant 25 ans.
Ouais. On va en parler dans quelques instants avec lui, mais la bande originale d'Yvan Bourgnon commence en 1979, où vous écoutiez.
Il parle de la mort comme tu parles d'un fruit. Il regarde la mer comme tu regardes un puits.
Les Marquises de Brel. Qu'est-ce que ça vous évoque, cette chanson?
Bon, ça évoque un peu le début, le milieu et la fin de ma vie, je pense. Parce que...
Bonne vie, quoi, en fait.
Voilà.
Ça, vous n'avez pas l'air très en forme.
C'est la plus belle rencontre, le plus beau voyage, en tout cas la plus belle escale de mon tour du monde avec mes parents, posé pendant quelques mois.
Donc c'est Les Marquises en question ou c'est la chanson?
Non, c'est Les Marquises. Hein. C'est le fait de m'arrêter aux Marquises avec mes parents, de se poser, d'aller à l'école là-bas.
D'être à l'école, ouais, c'est ça.
De rencontrer la population, d'aller en poche à voile à l'école, de manger à la cantine avec les doigts, de chanter, de jouer du ukulélé.
Et cette chanson, à part, elle a la même vision des Marquises que vous?
Je pense surtout que Brel, c'était le premier à comprendre les Marquises et à bien le raconter, il s'est mis dans le moule des Marquises et je pense que ça a transformé sa vie. Et voilà, je peux que acquiescer cela.
79, donc c'est le début de votre tour du monde en famille. 4 ans, c'est un grand voyage. Qu'est-ce qui a fait que vos parents décident du jour au lendemain de prendre toute la famille, votre frère et vous, sur la mer, comme ça?
De fuir les impôts.
Ça m'intéresse toujours ce déclic de se dire, allez hop, on part.
Le courage.
Ouais, alors, au-delà du courage, la motivation.
Quand t'es papa à dire je pars avec mes deux enfants faire le tour du monde, c'est du courage pour moi.
Surtout quand t'habites à La Chaux-de-Fonds en Suisse, que t'es boulanger et que t'as jamais mis les pieds sur un bateau.
Ah, c'est vrai.
Et que tu sais même pas ce que c'est que la mer. Et mon père part faire un stage au Glénan pendant 2 semaines. Ah, et puis il revient et dit c'est bon, on a lu les bouquins de motossier, on va acheter un bateau comme motossier à Josua. Et on part dans 15 jours, quoi. Donc,
Ah oui, parce que moi, j'ai fait les Glénans, et autant vous dire que même pour louer aujourd'hui, j'hésite, quoi, quand je suis à la mer. Ouais.
Et votre maman était d'accord ou avait peur?
C'est fou.
Ouais, je pense qu'elle a suivi son projet et elle a bien. Bon, on se rendait peut-être pas tout compte de tout, mais en tout cas, elle l'a accompagnée et puis elle s'est bien impliquée. C'était vraiment une belle histoire familiale. Ils ont appris sur le tas. Et c'est vrai que ce côté aventurier que j'ai aujourd'hui, clairement, je dois à mes parents qui nous ont fait découvrir l'amour de la mer, le bien-être sur l'eau, la découverte, le fait de ne pas avoir peur d'y aller et le fait d'apprendre à vivre avec ces populations, avec ces gens et de dérouler une histoire extraordinaire. Et, ça, forcément...
Enfin, c'est aussi une enfance sans potes, sans foot dans la rue, dans le garage.
Avec un frère.
Ouais, mais ça m'a pas manqué parce que je me nourrissais plus de... Moi, j'étais très un peu timide en plus. Je me nourrissais plus de ce que j'avais, de mon environnement, du sport, de la nature,
J'étais très proche de mes parents et ça me suffisait. J'ai tiré vers le haut comme ça.
Et le retour sur Terre, parce que vous partez, vous avez 8 ans. Vous rentrez, vous en avez 12. Ouais. J'imagine qu'à un moment, il faut retourner à l'école, la scolarisation. On n'est plus sur la mer. On a une routine. Ouais, on mange plus avec les doigts.
On a le mal de terre en plus.
C'est sûr que quand tu arrives pieds nus à l'école, ils se posent un peu les questions, les maîtres d'école.
Et puis surtout, l'enseignement, ça fait 4 ans qu'on n'a pas eu un enseignement. Surtout, c'est les débuts.
Alors, je faisais les cours par correspondance. Et c'est relativement efficace et pertinent. Donc le matin, la classe à bord du bateau avec maman. Et puis à l'après-midi, on va nager, on va faire de la planche à voile, on va faire autre chose. Et les résultats sont très très bons. Et c'est clair que le retour à terre était violent parce que tu reviens, les copains ils te parlent de Goldorak, ils te parlent de trucs qui te paraissent complètement ahurissants. Toi, t'as envie de parler de pêchons, de poissons, de voyages, de bateaux, de plein de choses. Et j'étais complètement déconnecté. Donc j'ai vécu une adolescence à terre qui était compliquée. J'ai vécu une hâte, c'était de pouvoir vite finir ses études et repartir.
1995. Et c'est le début du curriculum vitae.
Ouais, de carrière de skipper.
CV qui calme.
Avec le triplé Mini Fastnet Transgascogne Mini Transat. Les premières victoires aussi très vite en 97 avec votre frère, la Transat en double, Jacques Vabre.
Voilà, c'est le début de ma carrière sportive. Tout de suite, des victoires. Donc c'est sûr que ça me propulse. Je ne savais pas si j'étais fait pour ça, mais... Et à un moment donné, quand tu arrives sur ces bateaux, que tu gagnes, bon, tu te dis, je vais pouvoir peut-être concilier ma passion et gagner ma vie aussi.
Ouais. Et voilà. Et qui est le meilleur entre Laurent et vous, qui est le meilleur?
Je pense que Laurent, au niveau préparation de bateau, il n'y avait pas mieux à l'époque. C'est-à-dire qu'il n'y avait rien à dire. Il était capable de préparer une machine de compétition hors norme, hyper fiable.
Ce qui est très important.
Ouais. Ah oui, à l'époque, surtout dans les années 90, beaucoup de bateaux cassés à l'époque. Et en fait, Laurent, il a vraiment inventé un nouveau style de professionnalisant à fond ce sport et en ayant une préparation mais irréprochable. Donc, il avait certainement des concurrents qui étaient tout aussi bons que lui sur l'eau, mais il était tellement au top au départ de la course qu'il arrivait à finir devant.
Et je rappelle que malheureusement, il nous a quittés en 2002. On parle du sponsoring parce que quand on parle de ces courses... Et... 2015. Quand on parle de ces courses et quand on parle de ces grandes courses et de ces grandes traversées, il y a les sponsors. Et là, on va parler avec Loïc Hivikel. Bonjour Loïc. Votre rôle, vous, c'est de trouver des financiers pour des passionnés, des aventuriers comme Laurent Lété ou comme Yvan Lé.
Oui, je crois que en fait là, quand on a créé Sponsorizmi tout au départ, on est parti d'un laïus qui était de se dire comment est-ce qu'aujourd'hui tout sportif peut avoir accès au sponsoring d'une manière générale. On a eu différentes étapes qui fait qu'aujourd'hui le sport s'est un peu disrupté parce que le sportif s'est mis à être en lien avec
disrupté.
Son audience.
Disrupté. On est très en marche.
Voilà,
ce matin.
Chaque marché à un moment a une rupture. Celui du sport l'a rencontré d'une certaine manière au moment où finalement les communautés se sont mis à exploser, les sportifs se sont mis à voir leurs fans en direct. C'est-à-dire qu'avant, on passait par la télé pour être en contact avec son sportif et aujourd'hui les réseaux sociaux ont permis ce contact-là. Et y compris des petits sportifs ont eu une audience qui à travers Facebook, Twitter et tous les réseaux sociaux.
L'idée, vous mettez en contact, en rapport, donc des entrepreneurs avec des sportifs. Le sportif qui n'a pas toujours les moyens d'ailleurs de vivre des moyens de son sport, parce que tous les sports ne sont pas professionnels. On parle toujours du mercato, des footballeurs, voire du rugby maintenant qui devient professionnel avec des enjeux et des millions. Il y a les stars du tennis ou de l'athlétisme qui ont des parrains ou qui font de la pub ou qui deviennent des icônes, mais c'est pas le cas des 99% des sportifs.
Voilà. Exactement.
Et eux, ils ont besoin de même des clubs, certains clubs de minots, de gamins, d'avoir un sponsor sur un maillot,
d'un skipper qui a besoin effectivement de financer sa première transat ou etc. etc.
Donc ça va de l'échange avec on met votre nom et vous payez les maillots jusqu'à vous faites un chèque de X millions pour aider la fabrication d'un bateau.
Alors pas exactement. En fait, au départ, on est parti sur un modèle, vous parliez tout à l'heure de Kiss Kiss Bang Bang. En fait, on est une plateforme, je dirais, dédiée au sport dans le domaine du crowdfunding. Et qui a permis à un sportif de venir et dire, bah, moi, j'ai un projet, j'ai une histoire, je veux aller aux Jeux Olympiques, j'ai besoin de 3 000-4 000 euros pour financer ma préparation par rapport à ça. Et, je vais engager ma communauté, je vais lui proposer des contreparties, venir s'entraîner avec moi, venir partager un moment, éventuellement avec moi.
Privilégié, oui.
Exactement. Donc, c'est comme ça qu'a démarré l'histoire.
Ouais, mais dans Sponsorize Me, ce qui importe finalement pour un sponsor, c'est sa visibilité ensuite. C'est-à-dire que est-ce qu'il va aller plus facilement, j'imagine, sur un sportif qui a des chances d'avoir des photos, des caméras, des reportages, des médias pour que on voit
ce qui a écrit. Alors on se trompe parce que aujourd'hui de plus en plus en fait la marque elle va chercher une histoire. Mm-hmm. Elle va chercher une histoire qui a du sens, elle va chercher une histoire qui lui parle, qui va parler à sa communauté, qui va démontrer sa générosité, toute cette démarche RSE, toute cette part de responsabilité qui est en train de prendre conscience responsabilité sociale. Des entreprises. Ouais. Et en fait il y a de plus en plus de marques qui se disent à un moment et le public réagit par rapport à ça. C'est-à-dire que d'être le gros sponsor qui va mettre plein d'argent sur Usain Bolt ou sur etc. Finalement, on se rend compte que le public est pas forcément très fan de ça. Par contre, ce qu'il aime bien, c'est effectivement, je vais accompagner plutôt le petit sportif qui va avoir une vraie histoire, qui va se construire lui-même, qui va. Et là, la marque se rend compte que finalement, elle est à la recherche de contenu, d'un contenu un peu authentique. Et finalement, la plateforme comme la nôtre aujourd'hui est capable de.
Que le petit sportif arrive à percer.
Pas forcément, vous savez,
belle, parce que si après ça donne rien.
Si on parle de voile, on parle plus souvent des bateaux qui finissent pas que ceux qui finissent deuxième ou troisième. Donc en fait, c'est l'histoire qui va être racontée. Ouais. Je vous prends un exemple d'une athlète chez nous qui s'appelle Sarah Oramoun, qui a été une boxeuse que certains connaissent.
Ouais.
Sarah a lancé une campagne chez nous avant les Jeux Olympiques de Rio en disant moi à la date d'aujourd'hui, je rêve d'aller aux Jeux Olympiques. J'ai un rêve olympique. Quand les gens ont participé à son projet, Coca-Cola qui est une marque qui est un des gros sponsors des Jeux Olympiques a dit moi je veux aider finalement tous ces gens qui ont un rêve olympique. Et puis Sarah a eu une magnifique histoire, elle a pas été médaillée d'or, elle fait médaille d'argent, mais son histoire est extraordinaire. Et finalement, aujourd'hui, les marques sont en train de s'orienter vers des projets qui ont du sens.
Elles ont beaucoup plus de sens.
Sarah,
par exemple, ils l'ont aidé en quoi, Sarah?
Ils ont apporté de l'argent dans son projet. Donc, en fait, quand la communauté participe,
dans son projet, elle est sélectionnée au niveau de l'équipe de France, ouais. Donc elle est prise en charge par la fédération,
Non, parce que à la date d'aujourd'hui, pour aller justement aux Jeux Olympiques, ouais. Il va falloir qu'elle fasse un stage de préparation, il va falloir qu'elle aille au championnat d'Europe, au championnat du monde, etc. Il va falloir qu'elle aille faire un stage quelque part. Tout n'est pas pris en charge par la fédération. Okay. Donc, elle va avoir besoin d'une somme. Donc une partie de la somme est apportée par sa communauté et la marque dit à chaque fois que ta communauté t'apporte des sous, moi je vais participer aussi.
Donc c'est l'histoire qui compte plus que le sport.
Exactement.
Ou est-ce qu'il y a des sports qui quand même marchent mieux que d'autres?
Il y a forcément des sports qui marchent mieux que d'autres, mais on a beaucoup plus envie d'aider un skipper qui va sauver les océans que battre un record du monde. Il y a beaucoup plus de sens là-dedans et une marque.
Donc c'est la démarche intellectuelle que le chrono.
Exactement. On est beaucoup plus aujourd'hui dans une démarche de sens et je trouve que c'est plutôt un bon signe. Et on va beaucoup. Vous avez beaucoup plus envie d'aider un petit club de foot que le Paris Saint-Germain. Enfin, je caricature un peu la mécanique, mais en gros, effectivement, donc. Finalement, à un moment, toutes ces marques se disent moi, si vous avez... la force du sport, c'est de raconter des histoires. J'écoutais encore... Le sport, ce sont des histoires. Ce sont des histoires qui sont extraordinaires, qui se finissent pas toujours bien. Hein. On gagne pas forcément à chaque
l'entreprise
fois.
L'entreprise adore le storytelling, donc ça tombe
exactement.
Bien. Vous mettez aussi en relation maintenant des entreprises avec des grands sportifs. On voit dans quelle mesure on a reçu ici pas mal de grands coachs. Comment ils sont dragués par les entreprises pour venir à donner des cours sur le management, sur comment on surpasse, comment on affronte des difficultés. Ça, c'est un vrai marché en ce moment.
Alors ça, c'est un vrai marché. Il y a d'autres plateformes. C'est pas notre cœur de métier. Il y a des plateformes comme Start and Play ou d'autres plateformes de ce style-là qui effectivement mettent en relation des entreprises qui ont besoin d'avoir des sportifs de haut niveau.
Parce
ou
que
des
là,
coachs,
c'est pas l'histoire, c'est le résultat. À chaque fois, on prend quelqu'un qui a gagné.
Mais finalement, pas forcément, parce qu'une entreprise gagne pas tout le temps, donc elle va chercher à faire ce parallèle entre le sport et l'entreprise.
C'est pour les faire gagner, progresser.
Oui, mais quand vous allez avoir une intervention une personne qui va venir intervenir, elle va aussi parler du phénomène de son échec. Tout athlète a un moment connu dans son histoire un échec, une blessure, et donc c'est ça qui va intéresser aussi l'entreprise.
La plus grosse conférence que je fais, moi, c'est rebondir après un échec. C'est comment affronter et éviter l'échec.
Est-ce qu'un sportif peut refuser un sponsor? par valeur, justement, par éthique, en disant, moi, j'ai pas envie d'avoir Total sur mon maillot, ouais. vu la pollution.
Nous, ça nous, est, nous ça nous est arrivé sur la plateforme d'avoir des marques qui nous disent, d'avoir des sportifs qui nous disent, moi, je veux pas travailler avec telle marque. Je pense que c'est très louable. Après, c'est,
ouais, ça marche dans les deux sens.
Ouais. Ça marche dans les deux sens. Bon, alors, c'est quand même, ça reste, je dirais, anecdotique. Mais ça peut effectivement arriver.
Sponsorize Me, le commun des mortels peut aller sur ce site aussi pour des associations qui ne sont pas forcément d'un très haut niveau et déposer leur projet.
Ouais, c'est tout athlète qui aujourd'hui a un rêve sportif quel qu'il soit, un club, enfin voilà, nous on est une machine à raconter des histoires. En fait, on reçoit 500 projets par mois sur la plateforme.
C'est énorme.
Et on a surtout des marques qui nous aujourd'hui des grandes marques qui aujourd'hui cherchent ce genre d'histoire, cherchent ce genre de contenu un peu exclusif et dire bah moi j'ai envie de faire partie de votre aventure moi aussi et c'est la rencontre de ces communautés, de ces marques qui, et je crois que c'est vraiment un message et je pense que des projets comme ceux qui sont effectivement des océans, enfin voilà, ont du sens et les marques sont à la recherche de ce sens beaucoup plus que
la preuve que ça donne du sens c'est que c'est des anonymes qui deviennent mécènes qui donnent de 5 euros jusqu'à 100 000, c'est ça delta nain, je trouve ça formidable
dans l'anonymat le plus complet,
voilà, je trouve ça formidable. Merci Loïc,
merci
d'être venu nous expliquer le principe de votre site Tanguy Pastureau. Bonjour Tanguy.
Bonjour.
Demain à part évidemment le We Love Green Festival, il y a également à Paris le premier printemps des cimetières.
Oui, c'est comme le printemps des poètes, mais avec des gens morts et qui, du coup, vont pas nous prendre le choix à réciter du René Char. Le cimetière, c'est le dernier endroit de Paris où les mecs n'avaient pas eu l'idée d'injecter du fun. Ça y est, c'est fait. Même la mort devient sympa, Swan Hidalgo.
On en parle dans la dernière demi-heure. Oui. Yvan Bourgnon est notre invité jusqu'à midi. C'est la bande originale, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez avec Léa Calogodelli, Marina Rollman, Tom Villa, Fabien Morin, Tanguy Pastureau et notre invité est Yvan Bourgnon. Yvan Bourgnon, au milieu de... Vous savez, vous avez le nom de tous ceux qui seront avec vous, non, dans le think tank, le réservoir à penser.
Non, mais je vais découvrir.
Hein. Mauvais camarade. Donc ça commencera avec la projection de l'envoyé spatial. Jürgen Hansen et Pierre-Emmanuel Le Goff ont filmé le quotidien de Thomas Pesquet. Ensuite, il y a Audrey Pulvar, qui est présidente de la Fondation pour la Nature et l'Homme, et Thierry Keller, qui est rédacteur en chef de Ouzbek Erika, qui vont faire la présentation d'une table ronde pour redevenir terrien, c'est-à-dire redécouvrir le globe. Ensuite, il y a des entretiens où les extraterrestres, et si c'était nous, j'adore le titre, c'est Francis Rocard, un astrophysicien responsable du programme d'exploration du système solaire, qui se tournera vers l'espace. Table ronde également avec Pablo Servigne, théoricien sur l'effondrement des civilisations. Il y a également Isabelle Delannoy, ingénieur agronome, Alexandre Bigot-Verdier, connecteur chez WeShare, et Valérie Coréard, qui est sur Valère. France Inter. Valère, qui est chroniqueur sur Inter et journaliste, notamment pour l'info durable. Et auteur de Changer d'air, accent grave, RE, ou l'air de rien. La biologie a longtemps été réduite à l'idée darwinienne, mais il faut que tout cela change. Il y a un entretien avec Jacques Attali, ça sera à 16h30, et puis vous débarquerez à 17h pour parler des océans, pour nettoyer mieux ces océans. Et puis enfin, dans la philosophie, science, droit et philosophie, pour que nous avancions ensemble et redéfinir notre rapport aux espèces. En fait, tout est là pour... Il y a un côté très explicatif. Au milieu des concerts, je l'ai dit, de Charlotte Gainsbourg, d'Ibay, de Julia Tarmanet aussi, qui sera là-bas. Tout ça avec des stands pour manger, pour boire, pour réfléchir, pour faire la fête. 70 000 festivaliers. Vous allez répondre à des questions. Quelles sont les questions qui, parce que vous avez déjà fait cet exercice, Yvan Bourgnon, quelles sont les questions qui reviennent le plus souvent? C'est ce qu'on vous a posé ici comme question, c'est comment financer? D'où vous est venue l'idée? Est-ce que c'est encore possible de sauver la planète?
Non, les questions qui reviennent, c'est effectivement, comment faire, parce que l'océan est immense, et comment on peut faire, est-ce que ça va pas être une goutte d'eau de ramasser ces déchets plastiques dans la mer, et voilà, et montrer que l'action de CycleCleaner, ça va bien au-delà du fait que de collecter les déchets. Voilà, c'est on a besoin de rassurer là-dessus, puis on a besoin de montrer aussi clairement ce que vont devenir les déchets. Clairement, les gens ont du mal à comprendre qu'effectivement on ramasse des déchets mais, et ils se posent vraiment la question, qu'est-ce qu'on fait de ces déchets derrière?
C'est pas pour les mettre dans une autre décharge, quoi.
Voilà, exactement.
C'est pour les recycler, les traiter et qu'ils deviennent utiles.
Exactement.
Vous en êtes où exactement? Le bateau là, il est dessiné, on a des images en 3D qui sont sur internet qui sont absolument remarquables et excitantes parce qu'on a hâte de voir la mise à l'eau. Elle est prévue pour quand cette mise à l'eau? 2022.
On a terminé fin 2017 l'étude de faisabilité qui nous permet de prouver aujourd'hui qu'on va inventer littéralement un bateau qui est révolutionnaire parce que ça n'existait pas avant. C'est-à-dire qu'un bateau de 2500 tonnes va enfin pouvoir faire du travail et ramasser des déchets en énergie verte, ce qui n'existait pas. Aujourd'hui, il n'existe aucun bateau de travail comme ça en énergie propre sur Terre. Donc ça, c'est une vraie révolution. Et là, on va passer...
Sur Terre, il est échoué. Donc
ouais, sur l'eau plutôt. Oui. Et depuis janvier 2018, on travaille sur la phase 2 qui est de finir les études, de dessiner définitivement le bateau, de faire les appels d'offres pour savoir quel chantier naval en France va construire ce bateau.
C'est forcément en France?
Oui, parce qu'on a les meilleurs chantiers navals au monde en France, et voilà, on va pas les chercher ailleurs. Et puis après, on a deux années de construction, en 2020 et 2021, et en 2022, on pourra enfin naviguer avec le premier Manta. Comme le bateau est...
Vous l'appelez Manta comme l'arrêt Manta?
Voilà.
Pourquoi?
Non, comme Mantalo.
Voilà.
Bien sûr, naviguer l'arrêt Manta, c'est dessus.
La Rémanta, c'est...
La question, c'est pourquoi? C'est pas pourquoi vous l'avez appelé Manta, mais pourquoi la Rémanta? Elle est nettoyeuse?
Elle est nettoyeuse, c'est le meilleur poisson filtreur qu'on connaît dans l'océan.
Et tu savais ça?
Bien sûr.
Évidemment.
T'as dit que c'était les baleines tout à l'heure qui filtraient.
Voilà. Et puis, l'idée, c'est de rester en fondation pour que nos plans, nos 7 années de travail puissent être mis en open source, en open data, pour la communauté internationale. Et avoir l'idée que dans 4-5 ans, en fait, on puisse avoir vraiment 15 bateaux, 15 montagnes qui se construisent en même temps dans le monde.
Tanguy Passiro, Madrid de l'Info, c'est maintenant sur Inter, mais oui! Et donc demain, Tanguy, il va y avoir plein d'animations, mais dans les cimetières.
Oui, c'est le printemps des cimetières organisé par la mairie de Paris. Je pense qu'Anne Hidalgo est devenue folle et que personne ne le dit. Quand elle sort, il la shoot au Valium, puis Gérald Dahan se tient derrière elle et fait sa voix, donc mal. Paris, c'est devenu un vaste terrain de jeu. Avant, sur les quais, on roulait, maintenant on joue aux boules. Et en haut de la tour Montparnasse, ils ont mis une piscine à balles géante. Donc madame la maire de Paris, équivalent local de Patrick Sébastien, mais sans la nuque longue de gitan, s'est dit il y a encore un an, endroit où on s'éclate pas, l'ambiance est nulle, pas un tour aux piscines ni une course en sac, ce sont les cimetières. Un chabit autour de la tombe de Molière, ça aurait de la gueule. Elle appelle Tex, qui est au chômage, c'est-à-dire que toute la journée, il joue à pouet-pouet camion avec sa femme, qui n'en peut plus, elle a trouvé sur le darknet des Tchétchènes pour le découper vivant à la scie à bois, et lui dit « Texounet, organise-moi un truc, je veux de la jaille, du cotillon, appelle Bézu ». Tex répond, il est mort, il est au Père Lachaise. Hidalgo dit, ça tombe bien, fais-moi une grosse queue leu-leu en son hommage, on va s'éclater. Donc Tex relance tous ses contacts dans l'humour, Philippe Corti, la bande à Basile, El Château, Zaya pour le beer pong à poil, et Eric Ciotti, en leur disant, fini le recueillement, la mort c'est has-been, Patrick Topalov nous regarde de là-haut, ça va être la fiesta. Et donc est né le printemps des cimetières, avec plein d'animations, parce qu'un endroit où règne le silence, le recueillement, c'est encore trop pour nos élus, il faut que partout on s'amuse. S'il voit Jean-Pierre Bacri, la mine défaite à la terrasse des Deux Magots, il le kidnappe et le relâche à Disneyland avec Eddie de Préto, Isabelle Huppert et 4 Pokémon qui font la gueule déjà capturés. Ainsi, demain, au Père Lachaise, le carré VIP de la mort, hein, y a tout le monde. Apollinaire, Balzac, Racine, Proust, vous y faites entrer Didier Deschamps, il vous dit, et sinon, est-ce qu'il y a des gens connus? Il y aura un funéral poursuite. C'est véridique, un quiz autour de la mort. À 11h, il y a promenade musicale, hein, on se balade entre les sépultures en musique. Fini le repos éternel, même une fois clamsé, les mecs se farcissent la fête de la musique. Ça vaut même plus le coup de mourir. Moi, j'ai signé avec Satan un pacte pour vivre éternellement, le même papier qu'Aznavour. Au cimetière du Montparnasse, il y a un stand sur la biodiversité. Il se situe entre le stand Vivre Ensemble et le stand Solidarité Migrants, c'est Paris. Hein. Dans le cimetière de Passy est organisée une randonnée pédestre. Hein, si vous n'avez pas la condition physique et que vous mourrez, le côté pratique, c'est qu'il y a tout sur place. On ouvre un tombeau, on vous colle dedans, on referme.
Vous m'avez dit que les cimetières parisiens étaient des lieux sains.
Oui, parce que depuis 3 ans, les produits phytosanitaires, glyphosate, urine de cycliste, crachat de Pete Doherty, sont interdits. Donc quand vous êtes vivant, vous en ingérez plein, vous bouffez une tomate, il y a votre côlon qui fond. Une fois mort, les mecs se disent, on va peut-être faire gaffe à la santé des gens. Hein. Et du coup, les animaux reviennent. Ils avaient déjà réintégré les cheveux de Michel Houellebecq et le siège des patriotes de Philippot, parce qu'il n'y a personne à part Philippot. Et là, au cimetière d'Ivry, c'est véridique, on peut voir des chouettes, des hérissons et même des renards. Hein, ces petits êtres adorables qui ont les mêmes reflets qu'Élodie Frégé, mais en moins sexy. Quoique, quand ils secouent leurs boules, c'est salaud, on n'a pas tous le corps à 36,9. Bref, les cimetières parisiens, c'est propre, c'est soigné, les gens sont calmes. On se croirait dans la salle d'attente du proctologue quand on entend de l'autre côté de la porte le proctologue faire claquer ses gants en latex. Donc pourquoi pas s'y amuser ? Une nappe sur la tombe de Mémé Ghislaine, on sort les chipsters, le rouge et le saucisson, sauf si on est dans le carré juif, et c'est la belle journée. Alors bien sûr, des grincheux viennent gâcher la fête, comme Florent Berthoux, maire LR du 5e arrondissement, qui dit que la mort relève du sacré. Oh là là, quel rabat-joie! Et demain, elle va interdire quoi? L'atelier paintball à la morgue? La soirée house chez Rock Éclair? C'est fini la tristesse, la complainte à Paris? On fait la nouba? Moi, j'ai dit à mon grand-oncle, tonton, pour le jour où tu partiras là-haut rejoindre Elvis, Grosquick et les ambitions de Nicolas Hulot en matière d'écologie, le prends pas mal, mais j'ai réservé la compagnie créole, ils vont foutre le feu. Hein. Tout est événementiel à Paris. Les mecs voient un lieu, il crée un concept. Des toilettes publiques, hop, le mondial de la gastro du 14 au 20 juin. Un groupe de rats en train de dévorer un touriste chinois aux Tuileries, tac, la journée de l'Emmental, avec dégustation de fromage et Cyril Hanouna qui vient danser déguisé en grosse meule. La plupart des gens qu'on a inhumés n'étaient pas très drôles, hein, pardon, mais Victor Hugo, là, qui est au Panthéon, il avait la barbe du père Fouras, mais pas le même sens de la déconne. Hein, vous lui refiliez Laurent Bignolas en moule-burne, il était incapable de faire vivre une énigme. Hein, donc si on fait une petite soirée mousse autour de son tombeau, ce sera juste le règlement de sa dette au monde du fun. Simone de Beauvoir, là, qui est au Montparnasse, on a envie de lui dire, bébé, les féministes en 2018, ce sont les fémènes. Elles, au moins, elles font le show. Et avec un budget costume très limité, hein, tous ces gens sérieux, adultes, n'auraient pas pu vivre sous Anne Hidalgo, l'ambianceuse du 7-5. Et maintenant, je vous laisse, je vais faire la queue pour le live de Bob Sinclair en la Basilique du Sacré-Cœur, ce soir.
Merci, Tanguy Pastiaud. La bande originale.
Nagui sur France Inter.
Notre invité est Yvan Bourmion, qui a la bonne idée de vouloir nettoyer notre planète, nettoyer les océans. Le problème, au départ, c'est l'éducation. C'est ce que l'on transmet à nos enfants. C'est, vous avez dit, il y a des pays où on ne sait, on ne se rend même pas compte que jeter un sac en plastique, c'est dangereux pour l'écosystème, pour les coraux, pour les tortues qui prennent ça pour des méduses et qui sont étouffées en mangeant des sacs en plastique. C'est votre travail va aussi auprès des écoles, auprès des responsables, cette transmission que vous voulez porter.
Ah bah clairement. Hein, donc moi, je suis très heureux de traverser toutes les écoles et je suis plutôt rassuré parce que quand je vois en France, en Suisse notamment où je suis présent dans les écoles, je suis étonné de voir les gamins de 7 à 15 ans là, ils ont vraiment déjà, on voit vraiment une nouvelle génération arriver, et ils ont vraiment pris conscience. On voit vraiment que ces futurs chefs d'entreprise vont vraiment se comporter autrement que nos générations, et ça fait plaisir.
Votre rôle de pédagogue et de transmission va par exemple auprès des politiques. Est-ce que vous allez rencontrer des gouvernements, des ministres pour je sais pas, les réveiller un tout petit peu?
Tout à fait. En fait, le premier mandat va se financer de manière privée, hein, avec les donations et les mécènes. Mais dès qu'on a fini l'étape de se dire le bateau, il est fiabilisé, il fonctionne, on est capable de ramasser 20 000 mètres cubes de plastique, on est capable d'aller faire de la sensibilisation dans ces pays, bah là, on passe à l'étape suivante, qui est d'aller effectivement convaincre toute la communauté internationale. Et là, du coup, bah, en fait, le premier mandat, lui, va devenir un porte-étendard, un porte-drapeau. Il va parcourir le monde entier, de pays en pays, et on va essayer d'aller démontrer que ça fonctionne, que c'est opérationnel.
Enfin, déjà, aujourd'hui, avec votre notoriété, avec votre nom, ouais. ce que vous dégagez comme assurance, en plus en l'expliquant, enfin, ça serait difficile de ne pas être convaincant aujourd'hui.
Non, mais on le fait déjà. On parcourt déjà le monde pour le faire. Mais je pense qu'au niveau politique, on a vraiment besoin d'asseoir la crédibilité technique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est compliqué pour nous d'aller voir les politiques et dire allez, mettez 20 millions d'euros sur la table ou 100 millions, parce qu'évidemment, on a nos preuves à faire. On invente un bateau, il n'est pas encore opérationnel, il fonctionne pas. Donc ils ont du mal, c'est normal, les politiques ont du mal à mettre de l'argent dans quelque chose d'incertain.
Même quand on leur montre un prototype, même ouais. Si on n'y va par étapes.
Il y a un autre problème aussi, c'est que faut comprendre la position des États et des collectivités. Leur priorité, elle est tellement sur la sensibilisation et l'éducation, on a tellement à faire dans le sujet que le peu d'argent qu'ils ont disponible, forcément, ils ont envie de le consacrer à ça. Et on peut pas leur reprocher ça. Donc c'est pour ça que c'est important qu'il y ait des initiatives d'ONG. On n'est pas les seuls, il y en a plein d'autres. Hein. Surfrider sur les plages, Ocean Cleanup pour ses barrières flottantes et plein d'autres. Et heureusement que tout le monde œuvre, mais c'est vraiment ces ONG qui vont pouvoir mettre justement la pression à la communauté européenne, aux instances internationales. Et l'objectif aussi de Sea Cleaner, c'est vraiment de s'installer avec un réseau dans le monde entier, avec des associations, à l'image un petit peu de Sea Shepherd qui est mis comme ça, pour que ces associations en Chine, en Corée et ailleurs puissent eux-mêmes à s'approprier le projet et mettre la pression. Ils connaissent eux-mêmes leur pays et chaque pays aura son modèle économique. J'ai vu le roi du Maroc il y a 15 jours. Lui, il a envie d'acheter 2 bateaux et ça peut se faire en 15 jours. Et il y a des pays, il va falloir que ça passe par des taxes, par des lois, par des pressions internationales. Donc c'est chaque modèle économique va varier d'un pays à l'autre. Et notre boulot à nous, c'est de mettre à disposition des outils, mais forcément, il faut que tout le monde et chaque communauté s'approprie le projet.
Le nerf de la guerre, c'est toujours l'argent, c'est de rendre l'écologie rentable.
On peut pas dire que ça soit rentable. Je veux dire, ça n'a jamais été rentable.
Non, mais d'attirer les gens, en disant si l'on nettoie, l'on fait. Je pense à San Francisco qui a créé 6000 emplois pour recycler tous les déchets. Ouais, maintenant, c'est une ville qui recycle 100% de ses déchets en ayant créé des emplois.
Tout à fait. Mais ça coûte de. Je veux dire, ramasser les déchets devant chez nous tous les jours, ça coûte de l'argent. Ça, on peut pas dire
si ça crée des emplois d'un coup, on se dit que c'est.
Ça crée une économie, clairement.
Voilà, c'est ça.
Oui, clairement, ça crée une économie. Maintenant, on est bien conscient que on peut revaloriser le plastique, on peut lui trouver une deuxième vie, on peut l'enlever de la mer, mais il y a forcément un prix à payer à ça, et c'est chacun de nous qui doit le faire.
Daniel, on le voit avec un personnage comme Yvan Bourgnon, les grands sportifs sont des modèles, des personnalités que l'on écoute, ils peuvent devenir de véritables coachs de vie, des exemples à suivre, y compris pour les entreprises, pour les êtres humains, et se dire que parce que
fermez-la, monsieur qui. Fermez-la. Faites-moi un bon gros silence avec votre vilaine bouche pleine de fausses dents. Ah, enfin du silence. Voilà, nom de Dieu. Ce que c'est bon quand on n'entend plus votre voix. Ah là là, si on était payé à la connerie, vous seriez tellement riche, mon pauvre. Les grands sportifs, coach de vie, exemple à suivre. Mais il n'y a pas pire que les sportifs comme exemple à suivre. Le sportif, il est comme l'animateur télé. Il n'y a que l'argent qui l'intéresse. C'est une énorme pince à fric, une pelleteuse à pognon, une brouette à blé, une gobeuse à bifton. Alors, même si je reconnais volontiers que vous vous y connaissez en sport, et ce pour le pratiquer régulièrement, ici même, à France Inter, je ne vous cache pas même que je suis admiratif quand je vous vois chaque matin avec Delphine, votre esclave préposée à l'iPad, et qu'après l'avoir vertement molestée à grands coups de Louboutin, vous la soulevez, puis l'achetez à plus de 15 mètres chaque matin. Non, franchement, c'est balèze. Mais c'est pas le sport qui donne des valeurs. Non, monsieur Guy, excusez-moi, mais même si je dois le reconnaître, vous êtes tonique comme un biceps d'haltérophile. Vous êtes puissant comme un fessier de sprinter. Vous êtes cambré comme une croupe de gymnaste. Mais vous êtes con comme un footballeur sans cuisse. C'est sérieux. Et puis, de quel modèle me parlez-vous? Des déserteurs comme Adrien Rabiot? Des camés comme Lance Armstrong? Des intellectuels comme Candeloro? Des bons pères de famille comme Ribéry? Rien que d'y penser, je vomis. Puis je le remange, puis je revomis et je ramasse et je rapporte à la cantine pour le dessert de demain. Avec des raisonnements comme le vôtre, mon pauvre fou, on va finir avec des séminaires sur le savoir-vivre en entreprise animés par Tex et Karim Benzema, une formation en coaching troisième âge par Michel Drucker, le cycliste, pas l'animateur, et Sophie d'avant. C'est ce monde-là que vous voulez? Eh bien moi je dis non, désolé mon poussin, mais une fois de plus, tu as dit
n'importe quoi.
C'est ça.
Avec Nagui. Ça se passe comme ça dans votre milieu
C'est bien, les voileux ne sont pas intégrés aux sportifs, donc ça se passe bien.
Vous n'êtes pas considéré comme sportif, vous ?
Non, on est toujours en marge.
Mais évidemment, vous êtes considéré comme sportif. Et coach de vie, c'est-à-dire que cette idée de la transmission et toutes les valeurs que vous portez, moi je trouve ça formidable, y compris la clarté avec laquelle vous l'expliquez et la manière dont vous le faites en pratique. C'est pas simplement des discours de donneurs de leçons.
J'ai tellement eu cette chance incroyable de vivre des rencontres de la nature, de voir des ours polaires, de voir de la banquise, de voir des choses incroyables. Voilà, qu'aujourd'hui, j'ai qu'une envie, c'est de partager, c'est de donner, c'est de protéger cette planète et voilà, de contribuer un tout petit peu à ça. Et voilà, s'il me reste encore 30 ans pour me défoncer la gueule et faire quelque chose de bien là-dessus, on va essayer.
Le plus gros pollueur de la planète? C'est chaque individu, c'est nous tous.
C'est nous tous, clairement. Il faut pas s'exclure. Voilà.
Il n'y a pas une industrie plus qu'une autre. Il n'y a pas un pays plus qu'une autre. Il n'y a pas un continent plus qu'un autre.
Si, sur les plastiques, clairement, l'Asie du Sud-Est est quand même visée. L'Amazonie, le Nigeria, c'est des zones très contaminées. Voilà, ils ont 30 années de retard. Mais il faut pas penser que pour autant, ils agissent pas. La Chine fait un travail fantastique pour essayer d'améliorer ses recyclages, ses qualités de plastique, etc. Ils font vraiment un gros boulot de triage de mieux en mieux. Donc, ils ont beaucoup à faire. Ils partent de loin. Mais ils investissent encore beaucoup plus que nous pour ça.
Le We Love Green, on a eu droit à un petit rototo d'Yvan Bourgnon. Moi, je dis que c'est collector. Ça n'a pas toujours été le cas, mais c'est un peu
de méthane,
c'est naturel. C'est de l'énergie éolienne qui ressort. Il a tellement d'énergie en lui qu'à un moment donné, il faut que ça fasse.
Tu sais mettre à l'aise, quoi. C'est bien.
Ça va, c'est la fin de l'émission.
Il a le droit de faire son petit rototo.
Il y a de les distances pour les odeurs, ça se passe bien.
Non, mais tout va bien. Tout va bien. On est entre gens responsable, éco-responsable. We Love Green, en concert, il y aura également...
Allez, moi, c'est la meilleure. Ah ouais.
Je sais pas quoi faire.
La note.
Non, mais t'inquiète, il m'en faut plus. Hein.
Je sais.
Gardez-en sous le pied quand même.
Il y aura également eBay. Juliette Armanet. En concert, Björk, Jamie XX, Orelsan, et j'ai envie de dire, entre autres, parce qu'il y a énormément d'artistes. Ah ouais, c'est dingue, c'est un truc de dingue. Ça dure pendant 2 jours, il y a 3 scènes d'ailleurs, il y a même des dance floors qui sont H24 possibles.
Des caravanes dansantes, il y a plein de trucs.
Ça donne envie. Ah ouais. Et puis tout ça, c'est éco-responsable, c'est très important. Des rencontres, des conférences. Je le rappelle, à 17h, Yvan Bourgnon, il sera pour parler de Sea Cleaner, et puis tous ces restaurateurs également qui viennent pour faire de l'équitable, du bon, du bio, du proche, de l'intelligent, à voir et à vivre. Des excuses à présenter, Daniel Morin.
Évidemment, et désolé pour les fans de Taratata qui ont découvert qu'à la Will of Green, il n'y aurait ni Vianney, ni le duo mythique de l'émission Black M et Anne Romanoff. Je suis d'accord. Programmation totalement pourrave. Désolé pour le ministère de la Santé et le CSA qui ont été quelque peu choqués d'entendre de la bouche de Marina Rollman qu'il fallait arriver à 13 grammes pour être ivre. Vous le savez, les Suisses sont des gens différents. Désolé pour nos auditeurs qui roulent péniblement en autolib ou en smart, qui ont découvert ce matin que pour Nagui, une voiture, c'est comme un conteneur, c'est 12 mètres. Eh ouais, les pauvres, on n'a pas les mêmes valeurs.
Mais j'ai jamais dit ça.
Désolé pour les fans de Nagui qui se sont très inquiets quand leur idole a déclaré que l'argent n'était pas ce qui l'intéressait. Je vous rassure, il déconne. Et désolé pour finir pour nos auditeurs qui ont mauvaise digestion. Ils ont été stigmatisés par Nagui, le moqueur de Rototo.
Oui, alhamdoulilah. Merci, Yvan Bourgnon. Merci. Bonne conférence. Et surtout, on vous souhaite tout le succès possible avec Sea Cleaner, avec Manta. Bateau pour nettoyer les océans, c'est encore possible. Sport encore et tolérance et respect. Lilian Thuram sera notre invité lundi en live. Il y aura Synapson. Mais pour l'instant, ce sont les carnets de campagne de Philippe Bertrand. Bon week-end, à lundi. Merci.
Oui, merci Nagui, merci la bande et bon rototo.